Bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission hebdomadaire Portrait de femme. Aujourd'hui, c'est un nouveau portrait avec Jacqueline Engraff, par Jacqueline Engraff, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous parlons de Flora Tristan. Flora Tristan, l'écrivaine paria, comme elle se définissait elle-même. Française de nationalité, mais de fait franco-péruvienne, car Flore, Célestine, Thérèse, Henriette, Tristan, Moscoso, l'aîné, est né le 7 avril 1803 à Paris, mais son père, Don Mariano de Tristan y Moscoso, est un noble péruvien, colonel des dragons du roi d'Espagne. Il a épousé sa mère, donc une Française, Thérèse Anne l'aînée, qui était émigrée en Espagne pendant la Révolution française. Mais ce mariage en Espagne, célébré de plus par un prêtre réfractaire, alors un prêtre réfractaire, c'est un prêtre qui a refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé sous la Révolution française. Donc ce mariage ne sera jamais régularisé en France. Ce n'est pas un mariage civil, donc il ne compte pas en droit et cela aura des conséquences dans la vie de Flora par la suite. De retour en France, la famille vit dans une certaine aisance grâce à la rente d'un oncle archevêque de Grenade et à la pension du père en tant qu'ancien colonel et représentant de l'Espagne à Paris. Don Pio, le frère cadet de Don Mariano, qui a fini ses études en Espagne, retourne quant à lui vivre au Pérou. Mais Mariano meurt en 1807 d'une crise d'apoplexie, laissant la mère et la fille dans un extrême dénuement, car il n'a rien prévu pour protéger sa famille. C'est donc l'oncle Don Pio, au Pérou, qui hérite de l'intégralité de sa fortune. Flora et sa mère sont expulsées du domicile fastueux dans lequel elles vivaient, et de là vient le malheur de Flora. Flora qui doit travailler comme ouvrière coloriste chez un graveur, André Chazal, qu'elle épouse à 17 ans, poussée par la nécessité financière. Mais cet homme, quoique riche, est un homme méchant qui la séquestre, l'humilie et la bat avec une violence inouïe. Elle se réfugie pour résister dans la lecture des grands auteurs et autrices comme Rousseau ou Madame de Staël ou Lamartine encore. Mais n'y tenant plus, elle décide de fuir le domicile conjugal en 1825 alors qu'elle est enceinte de son troisième enfant. Son troisième enfant sera Aline, la future mère du peintre Gauguin. Sa famille maternelle s'étant rangée du côté d'André Chazal, elle confie sa fille à une institution et entreprend en 1833 un voyage au Pérou afin de rencontrer sa famille paternelle et d'obtenir une part de son héritage. À Arequipa, son oncle Pio de Tristan y Moscoso, j'espère que je prononce bien, l'accueille, mais le noble péruvien la considère comme une bâtarde et ne lui accorde qu'une part dérisoire de son dû, à savoir un cinquième de la fortune de son père. Il lui verse aussi une pension pendant quelques années et ce pécule lui permettra de voyager à travers le Pérou. Après un court séjour à Lima, la capitale, elle rentre en France et raconte son voyage au Pérou dans un fabuleux récit qui s'appelle « Les pérégrinations d'une paria », comme elle se considérait, publié en 1837. Véritable petit chef-d'œuvre qui décrit avec minutie l'Amérique du Sud au milieu du XIXe siècle. Avec son regard de parisienne laïque et républicaine, elle détaille ses observations sur la vie sociale et politique, le pouvoir de l'Église catholique et les discriminations de toutes sortes, y compris l'esclavage dans les plantations sucrières. Mais ce tableau déplaît profondément à son oncle, qui supprime la pension en représailles. Toutefois, les fonds reçus, qu'elle gère bien, lui permettent de vivre correctement par la suite. De retour en France en 1835, elle fréquente les cercles littéraires et socialistes, dont la Gazette des Femmes, abolitionniste de la peine de mort, réclamant plus de justice sociale. Elle est aussi féministe et écrit sur les conditions de vie des femmes étrangères et des femmes seules. Mais Chazal, son ex-mari, continue de la harceler. Les parents se déchireront pendant des années pour la garde des enfants. Aline est mise en pension, on dirait aujourd'hui qu'elle est en foyer ou en famille d'accueil, avec le droit de visite aux deux parents. En 1836, Chazal enlève sa fille, qui réussit à s'enfuir et retourne chez sa mère. Tout ceci dans un climat délétère de violence familiale. Flora porte plainte en juin 1837 pour inceste du père, d'après les dires de l'enfant de 12 ans et de son frère Ernest. Mais après quelques mois de prison, le père bénéficie d'un non-lieu. Alors, ici, une parenthèse au sujet du traitement de l'inceste aujourd'hui en France. La commission dite inceste, dépendante du ministère des Solidarités et de la Santé, a, depuis sa mise en place toute récente en janvier 2021, recueilli des centaines de témoignages de mères d'enfants victimes d'abus sexuels par les pères, beaux-pères ou oncles divers. Les membres de cette commission ont enfin compris qu'il faut entendre la parole des enfants et de leur mère. Très généralement, en dépit des révélations de l'enfant, ce n'est pas le père qui est mis en cause par les professionnels concernés, les professionnels sociaux ou de justice, mais la mère, accusée de manipuler son enfant, observe la commission. Dans les violences conjugales, comme dans l'inceste, la parole des femmes n'est pas crue. La vie des femmes et des filles compte moins que la vie des hommes. En la matière, je dis bien en la matière, jusqu'ici, la justice n'a jamais cessé de protéger les hommes. Donc je ferme la parenthèse. Le 14 mars 1838, Flora obtient enfin la séparation de corps, le divorce étant interdit depuis 1816, alors qu'il avait été légalisé sous la Révolution de 1789. Ce drame va pousser Flora à se battre le restant de sa vie pour le droit des femmes, et notamment celui de divorcer, bien sûr. Mais André Chazal la menace de mort. En 1838, il tire sur elle avec un pistolet, lui perforant le poumon gauche. Il sera condamné à 20 ans de prison, le mettant ainsi enfin hors d'état de lui nuire. Alors ici aussi, un petit rappel, chaque année en France, une centaine de femmes sont tuées par leur mari, le plus souvent lorsqu'elles veulent se séparer d'eux. Ce sont des crimes de possession. À ce jour, on en est à 99 crimes depuis le mois de janvier. Flora décide d'aller à Londres pour y étudier la condition ouvrière. Elle publie en 1840 « Promenade dans Londres » où elle démontre l'horreur de l'exploitation capitaliste, mettant en garde contre, je cite, « un modèle de développement où l'homme est sacrifié à la tyrannie du profit ». C'est elle qui le dit. De nombreuses personnalités telles Victor Hugo ou Georges Sand la soutiennent. En 1843, elle décide de mener une campagne de sensibilisation en effectuant un tour de France pour défendre ses idées. Mais de passage à Bordeaux, elle contracte la fièvre typhoïde et meurt le 14 novembre 1844 à 41 ans. Son dernier ouvrage s'intitule « L'émancipation de la femme ou le testament de la paria ». Alors, pour conclure, une citation de Flora. « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. » Je voudrais ajouter que, avec leur autorisation, je tiens à citer ma source pour ce portrait. C'est l'ouvrage des historiens Malka Markovitch et Jean-Marie Dubois, ouvrage intitulé « Parisiennes, ces femmes qui ont inspiré les rues de Paris », paru aux éditions Ballant en 2017. Ce livre cite les quelques 300 femmes que Paris a honorées au cours des siècles en donnant leur nom à l'une de ses rues. C'est un ouvrage captivant qui nous fait revivre l'histoire de France à travers des visages féminins, illustres ou méconnus, qu'il s'agisse de sportives, d'artistes, de reines, de résistantes, de marchandes, d'écrivaines ou de femmes politiques pionnières dans leur domaine, rappelant opportunément comment elles ont, comme nous disons, fait avancer leur temps. Et en cela, la place qui leur revient dans notre matrimoine. Voilà.
Merci Jacqueline pour ce portrait encore ô combien passionnant et ces références de livres. Donc, nous n'hésiterons pas à mettre sur la page du site.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.